Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie. Moi le mien il était parfait. J'étais dans le sud-ouest, Bordeaux, 30 degrés. C'était génial. Salut les curieux.
Au programme ce soir, comment Florence Artaud a-t-elle remporté la course, la route du Rhum plutôt, alors qu'elle devait porter une Minerve et qu'elle a été victime d'une fausse couche au beau milieu de l'Atlantique? On va vous raconter l'histoire d'une course mythique à 2 semaines du départ de la 10e route du Rhum.
Et puis pourquoi la France est-elle incapable d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques après 5 échecs successifs? On vous emmène dans les coulisses d'une organisation, le CIO, où l'on entend plus souvent les mots argent et politique que fair play. Et médaille. On attend vos questions évidemment au 3210 sur RTL.fr et sur Twitter, le hashtag le mot dièse, la curiosité RTL.
Et tout de suite, on va parler, j'ai bien dit parler, du Kama Sutra. C'est vrai que quand on en parle, ça fait plutôt. Voilà, Thomas rit.
Oui, non, mais parce que pour ceux qui nous ont écoutés jeudi, j'avais annoncé que je ferais des mouvements d'assouplissement,
fait,
de la gymnastique pendant tout le week-end en prévision du Kama Sutra, mais non,
Vous ne l'avez pas fait. C'est vrai que quand on dit Kama Sutra, on imagine ces positions un peu tordues, un peu cocasses, mais c'est vraiment absolument pas que ça. On en parle avec Marc Restellini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le patron de la Pinacothèque de Paris et le directeur artistique d'une exposition sur justement le Kama Sutra. Vous êtes donc le meilleur interlocuteur pour la question.
Le plus souple. Tout au moins.
Ah, vous êtes souple en plus. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Le Kama Sutra, pour nous, c'est vrai que c'est un livre de position sexuelle acrobatique, soyons clairs. Est-ce que c'est quand même un peu vrai?
C'est un peu vrai, mais c'est partiellement vrai. C'est avant tout un ouvrage extrêmement complet sur, je dirais, la vie intime dans sa globalité, et surtout sa vie, comment mener sa vie personnelle et sa vie amoureuse. L'aspect sexuel ne concerne finalement, ces 7 livres, le Kama Sutra, ne concerne que le 2e ouvrage, dans lequel il y a effectivement ces fameuses 64 positions qui ont été stigmatisées dans nos civilisations occidentales par le prisme de la pornographie.
Pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous comme ça, alors, le Kama Sutra? Ça a été 7 livres réduits en, combien vous dites,
64 positions.
64 positions, oui.
C'est un gros quiproquo, je dirais. Tout simplement, c'est un quiproquo entre la manière de voir la religion dans le monde hindouiste et la manière de la voir dans le monde occidental. Je dis souvent, le dieu chrétien est amour, le dieu hindouiste fait l'amour. Et c'est une formule qui est parfaitement exacte. Les dieux hindouistes sont reconnus, leurs vertus sont reconnues en fonction de leur qualité en tant qu'amant. Ce qui n'a absolument rien à voir avec nos religions judéo-chrétiennes, et encore moins même
plutôt dans la culpabilité.
Nos religions même antiques, c'est-à-dire que par exemple les dieux grecs et romains, quand ils voulaient avoir des enfants, ils prennent femme. Ils ont un côté prédateur. Jamais rien n'est indiqué sur leur qualité en tant qu'amant. Alors que le dieu hindouiste, lui, est tenu, l'une des obligations décrites dans le Kama Sutra, et qui donc de fait s'applique à l'homme, puisque le principe est que l'homme est tenu de se hisser au niveau des dieux, ou que le fameux dieu est à l'image, l'homme est à l'image des dieux, c'est d'être un bon amant. Plus il réussira à amener la femme à l'orgasme, plus il amènera sa compagne au plaisir et à cette sensation de plénitude, meilleur il sera. D'où le fait que vous avez des temples entiers en Inde qui sont absolument couverts des cabrioles excentriques que sont capables de faire aussi bien Shiva que Krishna et Parvati et tous les autres.
Shiva, c'est plus simple, a beaucoup de bras quand même. Donc.
Oui.
Pardon, c'est le dieu de la destruction,
celle-là.
C'est ça, non?
Shiva, on le voit régulièrement en train de faire l'amour à 6 femmes, oui, c'est effectivement...
Ça vous fait rêver, Thomas?
Non, quand même, je suis gourmand, mais pas à ce point-là. Bon, allez, soyons sérieux. Ça vient d'où? Ça date de quand?
Ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ, matérialisé sous forme d'un ouvrage, 4e siècle après Jésus-Christ.
Qui l'écrit?
Un brahman du 4e siècle qui s'appelle Vatsyayana.
Un prêtre, c'est
l'équivalent d'un évêque ou d'un cardinal. Et il écrit ça par une histoire qui est assez simple. C'est donc que Shiva a des ébats avec Parvati qui sont particulièrement bruyants et intenses, nous dirons. Ils sont rapportés, c'est drôle les rires que ça provoque, ils sont rapportés par sa monture qui à l'époque est un taureau, qui s'appelle Nandi, qui va rapporter aux sages qui forment en quelque sorte le clergé hindouiste, qui va raconter l'ampleur et la puissance de ces ébats, qui va évidemment devenir tout d'un coup un modèle absolument pour l'ensemble des dieux et donc des hommes, et il va finir par arriver aux oreilles de Vatsyayana, ce sage qui va le coucher sur papier pour en faire un ouvrage qui est un ouvrage général, qui ne concerne pas que la sexualité, qui concerne également la vie de couple, comment doit se comporter le mari, comment doit se comporter la femme, comment se font...
On parle
absolument de tout, voilà, même des choses qui sont les plus tabous. Le désir pour une femme qui n'est pas à vous. Le Kama Sutra est là pour gérer. C'est un peu une espèce de code de la vie familiale. Alors avant toute chose, faut savoir que le Kama Sutra est l'un des quatre piliers de l'hindouisme. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça explique à quel point ce livre est extrêmement important, parce que les quatre piliers, il est le troisième, les deux premiers. Alors pour faire des parallèles avec nos religions, disons. Le premier, celui qui apprend rapidement l'éthique et la morale. Ça correspond au premier âge de l'enfant, c'est-à-dire en gros apprendre à avoir les fondamentaux de la vie en groupe, la vie sociétale. Le deuxième, qui est assez différent de nos religions, c'est la réussite sociale. Donc ça, c'est 20 à 35 ans, à peu près 40 ans, parce que pour être bien dans sa vie, faut avoir la morale, mais faut aussi avoir l'argent. Avoir l'argent, ça veut pas forcément dire être riche, ça veut dire avoir une vie, une réussite économique qui permet de ne pas avoir à se soucier du matériel au quotidien.
Si vous permettez, Marc Castellini, nous allons continuer à détailler ces piliers de l'hindouisme dans un instant. Et puis on vous donnera aussi des bons conseils, vous l'évoquiez, comment tromper allègrement votre conjoint ou comment bien faire l'amour à votre femme si vous décidez évidemment de rester fidèle. Tout ça, c'est sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Il Kama Sutra.
La curiosité est un vilain défaut.
On trouvera dans les possibles Kama Sutra. Jusqu'à 22h.
Il Kama Sutra.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, il inspire ce Kama Sutra et il fait rêver comme on peut l'entendre. C'est pas un catalogue, le Kama Sutra, un catalogue de positions sexuelles. En tout cas, ce n'est pas que ça. C'est un livre sur l'art de vivre, le savoir vivre, sur comment grandir et devenir un homme et une femme accomplie. On en parle avec Marc Restellini, qui est le directeur artistique de l'exposition qui a débuté à la Pinacothèque de Paris. Le Kama Sutra, spiritualité et érotisme dans l'art indien. On était en train de parler des différents piliers de l'hindouisme. Il y a d'abord le premier pilier, c'est en gros bien se comporter. Le deuxième, bien gagner sa vie. Le troisième, bien faire l'amour.
Le troisième, a priori, oui, bien faire l'amour. Mais au-delà de bien faire l'amour, c'est surtout avoir une conscience et une connaissance de son corps.
Et de son corps et de celui de l'autre.
Et de celui de l'autre, évidemment. Et ça, c'est très important. Et je dirais, c'est le point fort de l'hindouisme, c'est qu'avoir une connaissance de son corps, c'est arriver finalement à vivre sa vie intérieure avec une certaine plénitude. Donc c'est là qu'on rejoint la spiritualité. Et cette plénitude permet d'atteindre le fameux quatrième pilier, qui est le nirvana, qui est l'extase, qui est touché de Dieu, qui est la grâce, qui est quand on a la morale, qu'on a l'argent, qu'on a la possession de son propre corps, on est matériellement en situation d'atteindre la grâce divine. Voilà. Alors l'extase sexuelle est l'un des moyens d'atteindre la grâce divine. Je pense que chacun d'entre nous ici a eu l'occasion de tester, bien sûr.
Bien entendu.
Évidemment. Alors tiens, on aurait pu commencer par là. Question de Marc qui habite Lyon. Ça veut dire quoi, Kama Sutra? La signification du mot.
Kama, c'est en référence au dieu de l'amour. Et Sutra, je ne suis pas un spécialiste de l'hindouisme.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une traduction très simple de ce. J'ai cherché aussi.
C'est l'ouvrage, ce qui résume en fait toute la vie amoureuse. Voilà.
D'accord.
Justement, vous disiez.
C'était une bonne question de
Lyon,
parce qu'on est tous un peu
collés. À nos auditeurs, ils sont piégeux.
On est tous un peu collés, là.
vous disiez, Marc Castellini, que le Kama Sutra, c'est l'art de s'élever et de toucher, d'atteindre le nirvana. Alors, ça veut dire que ces différentes positions sexuelles qui existent quand même, celles qui sont un peu acrobatiques, ces différentes positions sexuelles, elles permettent, ce sont comme des rituels qui permettent d'atteindre ce nirvana, c'est-à-dire que c'est presque des exercices comme dans d'autres religions, on pourrait faire des prières. Là, on fait du sexe, en gros.
On fait pas du sexe, c'est-à-dire qu'on fait du sexe. Le sexe est un moyen d'atteindre effectivement l'extase. L'extase, c'est la jouissance, c'est l'orgasme. Ce fameux ouvrage numéro 2 du Kama Sutra, consacré à la vie sexuelle, donne comme obligation à tout homme, pour être considéré comme un amant digne de ce nom, d'amener la femme à l'orgasme.
Mais justement, ces fameuses positions, elles permettent d'amener, qu'on décrit et qu'on voit, elles sont dans votre exposition, par exemple.
Elles sont un exercice qui permet qu'on doit maîtriser pour y arriver. C'est pas une obligation. Ce qui est intéressant et ce qui est frappant, c'est la modernité de ce livre. C'est l'absence totale de tabous avec lesquels, en fait, absolument tout est traité, et indiqué, et discuté sans le moindre problème. La statuaire, qui en est l'illustration, est d'une simplicité. Souvent, on parle de pornographie, mais c'est montré avec un tel naturel que finalement, ça ne pose aucun problème. On a prévenu le public, évidemment, valait mieux pas qu'ils s'attendent à voir des comptes roses, mais...
c'est une exposition.
C'est une expo qui, je pense, peut aussi être vue par des jeunes sans aucun problème, parce que je crois qu'il n'y a aucun gamin aujourd'hui qui va être choqué par ce qu'il y a dans l'expo. Et on a des choses absolument invraisemblables qui sont montrées, qui montrent la modernité.
Par exemple, le
point G, on peut parler de tout.
Bien sûr, bien entendu.
Il n'y a
pas d'heure pour le point G, 20h17.
C'est parfait. Il y a certaines représentations où on voit dans un rapport sexuel un homme en train de planter ses ongles dans le dos d'une femme. La question était souvent de se dire, mais moi, la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et les gens à l'université, là-bas, vous expliquent. Et c'est en train de stimuler les points G de la femme. Voilà. Et il y en a à peu près 200. Et ils changent tous les jours. Donc le bon amant, il est censé les trouver et amener. Alors effectivement, la femme dans l'extase sexuelle, et qui a un orgasme beaucoup plus fort que celui de l'homme, peut atteindre un niveau de sensibilité sur le corps qui fait qu'elle atteint un niveau d'extase absolue. Vous ne me contredisez pas, j'imagine.
Je ne vous contredis pas, Marc Castellini, absolument pas.
Moi non plus, d'ailleurs, pourquoi on vous contredirait, c'est passionnant.
Mais c'est à moi qu'on parle, voilà.
Oui, mais voilà, moi je me sens concerné aussi.
C'est extraordinaire.
Je ne sais pas pourquoi je me sens concerné. Allez, on vous raconte l'histoire du Kama Sutra ce soir sur RTL.
Gardez-la pour nous.
On croyait qu'il ne parlait que de sexe, mais c'est bien plus que cela. C'est un livre de sagesse, un guide pour mener une vie meilleure. Et c'est sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité, on en a évidemment avec Marc Castellini, qui est directeur de la Pinacothèque de Paris. Il l'a dit, directeur artistique de l'exposition Le Kama Sutra, spiritualité et érotisme dans l'art indien. Pas de fou rire, Sidonie, s'il vous plaît. Dans le livre 5...
On rit aussi dans le Kama Sutra.
Bien sûr, j'espère
bien.
Il y a l'humour, vous.
Pour arriver au nirvana, évidemment, qu'il faut aussi savoir sourire et rire. Alors, je voudrais qu'on continue de parler un peu de sexualité et d'amour. Livre 5, séduire les femmes des autres. Allons, oui. Bon, que dit le Kama Sutra là-dessus, sur cette question?
Alors, ne nous trompons pas et ne me faites pas dire des choses qui sont fausses. Le Kama Sutra, c'est des règles morales. Donc,
je vois, oui.
Non, mais il explique.
Séduire la femme des autres, oui, bah oui.
Mais c'est un problème qui se pose, ma chère, figurez-vous. Le problème, ce n'est pas en l'éliminant ou n'en parlant pas qu'il disparaît. Alors, il en traite. Comment, qu'est-ce qui se passe? Il recommande de ne pas le faire. Maintenant,
si vraiment,
si par hasard, il y a des pulsions, et les pulsions, on n'y peut rien, elles sont là. Donc si par hasard vous êtes...
Il faut bien que le corps exulte, disait Jacques Brel dans une chanson.
Donc si par hasard vous êtes dans une situation où vous êtes tenté par la femme d'un autre... Ah ben, le Kama Sutra vous explique comment on fait.
Alors voilà. Par exemple, comment faut-il faire pour séduire la femme des autres d'après le Kama Sutra?
Toutes les techniques de séduction, surtout pour faire en sorte que le mari ne s'en rende pas compte, voilà.
Ah oui, d'accord, des conseils de discrétion.
Bah voilà.
Est-ce que dans le Kama Sutra, il y a des dessins? Et ce ne sont que des textes ou il y a des dessins aussi?
Non, c'est illustré, bien sûr. Bah, ces fameuses 64 positions sont l'une des illustrations. Après, vous avez eu le Kama Sutra qui est tellement rentré dans la vie quotidienne que vous avez eu des fusions entre les contes traditionnels indiens et le Kama Sutra, où vous voyez des espèces de fusions entre des histoires classiques qui étaient racontées et le Kama Sutra.
Mais au départ, ce sont des statues, vous nous les avez décrites tout à l'heure. Ensuite, il y a eu une miniaturisation.
Les statues sont l'illustration, je dirais, sur les temples, mais également dans une statuaire civile, c'est-à-dire à la maison, ça se transfère à tout. Ça peut être un plafond, ça peut être jusqu'à des petites boîtes pour se maquiller. Tout vous rappelle la vie des dieux, parce que le Kama Sutra, c'est avant tout l'illustration de Shiva et Parvati et de Krishna et d'un certain nombre de leurs compères, qui vous montrent comment doit être accompli de façon la plus optimale votre vie au quotidien dans une vie domestique et avec votre épouse ou votre maîtresse.
Dans votre exposition, Marc Restellini, au cœur de la Pinacothèque de Paris, exposition sur le Kama Sutra, il y a des objets qui s'appellent des miniatures, qui sont en grand nombre. Décrivez-nous ce que c'est, ce qu'elles racontent, ces miniatures.
Alors, les miniatures sont dans le livre, étaient des illustrations du livre, et à partir effectivement du 14e jusqu'au 18e siècle, vous avez des écoles de peinture qui se sont essentiellement assignés à représenter, entre autres, le Kama Sutra dans des ouvrages et des enluminures. Donc ce sont des ouvrages illustrés. Là, les illustrations ont été détachées des livres pour pouvoir être montrées le plus largement possible au public. Et elles traitent de tout. Vous avez par exemple, et encore une fois, c'est moral. Par exemple, vous avez des scènes où on voit des scènes de copulation avec des animaux. Bon, c'est pour les dénoncer, pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, par exemple, l'homosexualité est tout à fait tolérée. Il y a des scènes homosexuelles dans le Kama Sutra, elles sont montrées. Bon, ils disent que c'est pas une nécessité, mais on est quand même au 4e siècle, faut se rendre compte. Hein, vous rendez compte la modernité, c'est stupéfiant. Le mariage homosexuel en France a à peine quelques mois. Vous avez au 4e siècle des représentations d'homosexuels en train de copuler.
Est-ce que ce Kama Sutra au 4e siècle, Marc Restellini, est-ce qu'il s'enseignait? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait par exemple des exercices pratiques, enfin un enseignement des exercices à faire chez soi, par exemple.
Mais bien sûr, la masturbation, par exemple. Vous avez des scènes qui représentent les femmes en train de se masturber. Vous savez que c'est quelque chose aussi dans nos civilisations qui est totalement interdit. La femme n'a pas le droit de se donner du plaisir. Elle ne peut se donner du plaisir que dans le rapport, et encore même, n'oubliez pas, au Moyen-Âge, une femme qui avait du plaisir était une sorcière, on la brûlait. Donc une femme qui attirait les autres était une femme dangereuse. Également, elle pouvait être pourchassée en sorcellerie et brûlée. Donc il y a vraiment un tel décalage, si vous voulez, entre la modernité de cette approche qui est absolument frappante et nos civilisations. Et c'est vrai que la transformation, je dirais, par le prisme de nos religions judéo-chrétiennes du Kama Sutra pour le transformer uniquement en un livre pornographique...
C'est un peu de mauvaise foi ?
C'est pas de la mauvaise foi, non. C'est un fait. Si vous le regardez effectivement avec les lunettes du christianisme ou du judaïsme, vous êtes pas de l'islam, paradoxalement, parce que vous avez dans l'islam au XVIe siècle des ouvrages qui sont assez proches du Kama Sutra pour vous expliquer les méthodes, comment faire l'amour. Vous avez une pièce de théâtre en ce moment qui se joue, qui parle de ce genre de choses. Mais le judaïsme et le christianisme peuvent transformer la lecture du Kama Sutra en une lecture qui tend à montrer que c'est un livre pornographique, ce qui n'est pas.
et on continue de chasser vos idées reçues sur le Kama Sutra grâce à notre invité. Restez à l'écoute de notre curiosité sur RTL, évidemment.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. Soyez fiers d'être curieux. On est bien avec RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans une bonne ambiance brésilienne, en feuillette, ou plutôt en effeuille, le Kama Sutra sur RTL. Du sexe, oui, mais avec esprit, avec talent. Le sexe, oui, mais avec de l'art. On en parle avec Marc Restellini, directeur artistique de l'exposition sur le Kama Sutra à la Pinacothèque de Paris. Elle est visible jusqu'au 11 janvier 2015. Elle a déjà beaucoup de succès. Dans votre exposition, Marc Restellini, il y a beaucoup d'objets du quotidien. Quels sont-ils, ces objets du quotidien ?
Les objets du quotidien sont tous ceux qui sont finalement dans l'espace domestique et intime, notamment la chambre à coucher. Vous avez des tas de choses qui, de près ou de loin, peuvent vous permettre, avant de passer à l'acte, d'ouvrir des boîtes, de préparer des choses, d'avoir. Vous avez aussi des godemichés. Vous avez des tas d'objets.
Ça ressemble à quoi un godemiché de... Vous avez un godemiché qui remonte à.
Il y en a plein.
Ou...
Oui, on a des godemichés. C'est très ancien, en ivoire même, absolument, ouais. Sculpté, très joli, des vraies œuvres d'art, oui, absolument. Oui.
Il y a un livre qui s'appelle, le livre 7, je crois, Les Aphrodisiaques et les Charmes. Oui. Alors c'était quoi le Viagra du 4e siècle en Inde traditionnelle, c'était quoi ?
La diversité déjà.
Oui, ça c'est vrai. Ça. L'inventivité.
L'inventivité, c'est le meilleur des Viagra. Mmh. Ensuite, y avait des tas de plantes, vous savez, on est dans un pays où on brûle les encens, il y a des tas d'odeurs et des tas d'ingrédients qui pouvaient susciter. Mais on parle de tout, le plus simplement du monde. On parle aussi des griffures, des morsures.
Ce sont des conseils ou des conséquences, ça, les griffures ou les morsures dans le Kama Sutra ?
Écoutez, je laisse à chacun le libre esprit d'interpréter la chose. Mais apparemment, ça a l'air d'être plutôt conseillé. Oui, une petite griffure de temps en temps n'a jamais fait mal à personne.
Le Kama Sutra, il est toujours très lu en Inde ?
Je précise juste un mot. Si vous aviez l'idée que dans les musées c'est très austère, vous voyez que c'est totalement faux.
Ah oui, mais ça, avec vous, Marc Restellini, on est sûr que on doit bien s'amuser à la Pinacothèque. On envoie d'ailleurs nos auditeurs aller y faire un tour. Oui, je me demandais, le Kama Sutra, il est très lu encore en Inde. C'est un livre important.
Il est très lu. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, l'Inde n'est plus tellement un pays libre en termes d'esprit aujourd'hui, parce que malheureusement, l'Angleterre, Victoria, un siècle de Victoria, ça vous bousille pas mal de choses, mais il y a dans les inconscients collectifs, le Kama Sutra est extrêmement présent. Tout le monde l'a à la maison, tout le monde le lit, oui, c'est assez incroyable. Il est vraiment dans les inconscients collectifs. En revanche, faire l'expo qu'on a là-bas est absolument impossible.
Pourquoi ?
À cause de Victoria. Elle a introduit en Angleterre, en Inde, au moment du protectorat, elle a introduit le puritanisme anglais. Et voilà. Donc
ce qui passe encore dans l'espace privé, si je vous comprends bien, serait impensable dans l'espace public, dans un musée.
Voilà. C'est pour ça la commissaire qui s'appelle Al Capende, qui est une femme extraordinaire, était ravie de pouvoir faire cette exposition. Elle travaille sur les ouvrages du Kama Sutra depuis 25 ans et elle était dans l'impossibilité de faire cette exposition en Inde. Voilà.
Comment il est arrivé jusqu'à nous, le Kama Sutra ? Est-ce qu'il y a eu un importateur, un découvreur occidental, français ?
Il a été traduit en Angleterre à la fin du 19e siècle, dans une traduction qui a été reprise également en français au début du siècle, oui. Et c'est un ouvrage qui a été traduit, qui est diffusé. Vous rendez compte, c'est l'ouvrage le plus célèbre au monde après la Bible.
Mais oui, c'est ce qu'on voyait dans les extraits qu'André Facetta a choisi. Finalement, il s'est totalement internationalisé, en étant quand même un peu caricaturé.
Caricaturé, c'est-à-dire qu'il est devenu aussi l'image de ce qu'était de ce qu'est l'Orient, une image de ce qu'est l'Inde, avec tout ce que ça a aussi de folklorique, et en gommant et en éliminant toute cette partie spirituelle qui habite l'ouvrage, parce que on n'a plus retenu finalement que l'aspect caricatural de ses positions.
Le Kama Sutra, vous en faites une exposition à la Pinacothèque jusqu'au 11 janvier 2015, Marc Restellini. L'exposition est organisée comment? Selon les 7 livres, c'est-à-dire...
Vous avez deux...
C'est progressif.
C'est progressif, tout à fait.
Comme le plaisir.
Vous avez deux chapitres, deux salles consacrées, je dirais, à des aspects généraux pour un peu expliquer ce qu'est l'hindouisme, expliquer comment, en fait, le panthéon divin dans l'hindouisme. Et ensuite, c'est pris chapitre par chapitre pour expliquer, donc effectivement, comment séduire la femme, comment se comporter dans le mariage, comment la femme doit se comporter, comment l'homme doit se comporter. On parle de tout, comment la femme doit faire pour obtenir de l'argent de son mari.
Mais l'inverse, non, pas encore.
Voilà, c'est genre de choses qui sont, je dirais, aujourd'hui, des conversations entre femmes qui ne dépassent pas un certain monde. Là, l'homme est informé et il a aussi devoir, quelque part, de faire en sorte qu'il rende sa femme heureuse par tous les moyens.
Le Kama Sutra, spiritualité et érotisme dans l'art indien, c'est une exposition hautement érotique, quand même.
C'est une exposition qui est indéniablement hautement érotique.
Mais accessible aux enfants. On peut venir avec ses enfants. On doit avoir quoi, 16 ans, 17 ans?
Oui, je pense qu'il n'y a pas un adolescent.
On montre sa carte d'identité à l'entrée.
On va arriver une puce de. On agira, mais.
C'est non.
On lui dira où sont tes parents.
Merci infiniment.
En tout cas, il faut mieux aller voir cette exposition que de regarder des pornos sur Internet. Ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux adolescents.
Ah oui, ça, c'est bien conseil de papa, ça.
Ça a le même but aussi. N'oubliez pas qu'il y a un aspect éducatif dans la chose. Et aujourd'hui, Internet remplace. Beaucoup de choses. Vous savez, au 19e siècle, papa emmenait son gamin au bordel pour lui apprendre à bien faire l'amour et à être prêt pour le mariage, parce qu'il fallait pas que pauvre gosse se retrouve en situation...
Il ira à la Pinacothèque avec papa. Voilà. Et puis c'est tout.
Allez, exactement.
Merci à vous, Marc Restellini.
Vous écoutez RTL.